Voilà, bonjour à tous, merci d'être présents chez Filigrane. N'hésitez pas à venir nous rejoindre à l'espace bar, puisque la voix que vous entendez, elle vient de l'espace bar où ont lieu les rencontres littéraires. Et la première rencontre de cette rentrée 2009, eh bien, c'est un grand, grand coup de cœur du rayon littérature, à savoir La double vie d'Anna Song, paru chez Actes Sud par Minh Tra Uy. Et Minh Tra Uy nous fait le grand plaisir d'être parmi nous aujourd'hui à Bruxelles. Minh Tra Uy, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que finalement, écrire, c'est mélanger l'imaginaire à l'authentique? Et c'est ce que vous faites finalement avec brio à travers La double vie d'Anna Song?
Ben, en tout cas, c'est vrai que c'est ma vision à moi de ce que doit être un roman réussi. C'est s'inspirer éventuellement de faits vrais, mais si jamais on s'inspire de faits vrais, faire en sorte, effectivement, comme vous le disiez en off tout à l'heure, qu'on transcende en fait l'histoire. Et je pense pas que la littérature doive être un compte-rendu, assez plat finalement, de faits, même si ces faits-là sont exceptionnels. Mmh. Et en l'occurrence, c'est vrai que dans La double vie d'Anna Song, je me suis inspirée d'une histoire vraie, d'une histoire qui en tant que telle était assez folle, qui était une vaste supercherie, qui a ébranlé tout le milieu de la musique classique, mais plutôt dans le monde anglo-saxon. Mais ensuite, quand j'ai travaillé autour de cette histoire, j'ai fait un travail d'enquête, d'investigation sur ce qui s'était exactement passé. Mais il n'a jamais été question de faire une enquête journalistique sous forme de livre sur cette histoire-là. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'y ai inscrit mes propres thèmes, mes propres obsessions personnelles pour en faire un roman à part entière. Mmh.
Finalement, transcender les choses, c'est important. Je dirais que c'est le là de tout bon roman de la réussite d'un livre. Et pour nous, votre livre est complètement réussi, au point de dire que finalement, cette histoire d'imposture musicale n'est peut-être qu'un prétexte et que l'âme du roman se trouve justement ailleurs.
Ben, en tout cas, moi j'aime bien qu'un livre, il y a toujours plusieurs tiroirs, plusieurs possibilités de lecture et plusieurs fils qu'on puisse tirer. Et l'idée du livre, c'était que bon, ceux qui s'intéressent à cette histoire, qui en elle-même est assez folle, puissent lire le roman et puis en suivre les péripéties, bon, qu'il y ait une sorte un peu de suspense qui puisse les porter. Mais que quelqu'un qui, par exemple, ne s'intéresserait pas spécialement à la musique classique non plus, puisse quand même pouvoir lire le roman sans en avoir aucun souci. Que quelqu'un qui, au contraire, s'intéresse énormément à la musique classique, puisse aussi avoir sa lecture à lui. Parce que, bon, il y a par exemple pas mal dans le livre de clins d'œil ou de private joke qui s'adressent à des personnes qui ont une certaine culture musicale, qui ont une certaine connaissance aussi du milieu musical. Il y en a d'autres qui... Bon, mais c'est pas du tout grave si on ne les saisit pas. Et c'était un peu le principe du roman, et à mon avis, c'est le principe de tout roman de manière générale, c'est qu'on peut se le lire à différents niveaux, à différents étages.
Et c'est ailleurs, finalement, que l'on soit écrivain ou pas, nous vivons tous dans un environnement tangible, comme par exemple aujourd'hui chez Filigrane, mais surtout également dans notre imaginaire, nos rêves, nos désirs, nos fantasmes.
Oui, en tout cas, c'est la conviction du personnage qui raconte l'histoire, le mari, Paul. Et c'est ma conviction à moi, hein, que je lui ai donnée aussi. C'est vrai que, de manière générale, on vit autant, je pense, dans la fiction que dans le réel. Dans le concret, certes, qui nous entoure, dans des éléments tangibles, mais aussi dans des éléments tout aussi intangibles, qui sont effectivement nos rêves, qui sont nos fantasmes, ce qu'on vit pendant la nuit, lorsqu'on dort, et peut-être finalement tout aussi réel que ce qu'on vit le jour, lorsqu'on vit, entre guillemets, pour de vrai.
Mais finalement, ce qui est réel ou la vérité, c'est peut-être tout simplement ce qui nous aide à vivre, et peu importe que ça soit vrai ou pas, et ça rejoint un peu l'histoire d'Anna Song.
Ben, en tout cas, la question que pose le livre, c'est sur la part de fiction au sein de toute vérité, ou la part de mensonge au sein de toute vérité, de vérité au sein de tout mensonge. Ce qui m'intéressait, c'est effectivement de brouiller complètement les deux domaines jusqu'à les rendre complètement poreux. Et c'est parce que ça correspond à la définition de la littérature pour moi. Et c'est vrai que, après tout, parfois un mensonge peut vous aider à vivre beaucoup plus que certaines vérités. Donc c'est toujours la question aussi qu'on se pose régulièrement, à savoir, est-ce que il faut que je mente à une personne pour la protéger, ou est-ce qu'il vaut mieux lui dire la vérité, quitte à la blesser mortellement. Et il y avait ça comme enjeu, c'est une question qu'on pose. Je ne pense pas qu'on y réponde vraiment dans le livre, mais c'est une question qu'on pose.
À chacun sa réponse en le lisant. En prélude à ce roman, vous citez René Char. Vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir. Alors j'ai envie de vous demander, écrire, c'est aussi s'obstiner à achever un souvenir?
Oui, je pense que c'est s'obstiner à achever un souvenir, mais ce souvenir fut-il d'ailleurs un peu mythique ou d'ailleurs fut-il vécu par d'autres, et en l'occurrence dans la double vie d'Anna Song ou même dans mon premier roman, La princesse et le pêcheur, je pense que quelque part c'était des romans qui tentaient de perpétuer le souvenir de quelque chose qui n'est pas mon souvenir, mais qui est le souvenir plutôt de ma famille, qui était un peu l'histoire familiale. Voilà, mes parents sont d'origine vietnamienne. Enfin, d'ailleurs, ils sont arrivés en France dans les années 60. Moi, je suis née en France. Je suis allée au Vietnam, mais bon, je suis quand même à 90% française, on va dire. Et ils ont gardé le silence très longtemps sur ce qu'ils avaient vécu là-bas, sur ce que leurs propres parents avaient vécu au Vietnam, alors que la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam ont traversé l'histoire de ma famille tant dans la branche paternelle que dans la branche maternelle. Et je pense quelque part que pour eux, ils n'avaient pas envie de charger finalement les épaules de leurs enfants du fardeau du passé. Voilà. Donc mon grand-père et mon arrière-grand-père ont été tués dans des circonstances tragiques. Et du coup, ma grand-mère a dû fuir avec mon père. Elle a perdu au passage déjà son fils aîné à la guerre, puis sa petite fille qui était trop faible pour vivre dans des conditions aussi misérables qu'elle l'était à cette époque-là. Et ils m'en ont très peu parlé parce qu'ils ont toujours estimé que maintenant, si jamais ils quittaient le Vietnam pour venir en France, il s'agissait de faire table rase du passé, pour que leurs enfants aient une chance de construire un avenir, et un avenir qui ne soit pas empoisonné, qui ne soit pas assombri par les tragédies qu'avaient vécues leurs parents et leurs grands-parents. Mais je pense que d'une certaine manière, et même si j'en étais pas tout à fait consciente en fait quand j'ai commencé à écrire, sans doute le fait est que dans La princesse et le pêcheur, on a l'itinéraire de mon grand-père et mon arrière-grand-père qui sont déroulés du côté paternel, et finalement dans La double vie d'Anna Song, il y a aussi une part vietnamienne qui apparaît, et je me suis inspirée de l'itinéraire de mon grand-père, mais maternel cette fois. Et je pense que du coup, c'est effectivement s'inscrire dans le souvenir de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont vécu, prolonger leur mémoire, même si mes parents, eux, c'est pas qu'ils ne l'ont pas estimé nécessaire, mais qu'ils ont pensé que ce serait peut-être trop lourd à porter. Et du coup, on en a peu parlé, et je pense que ces livres-là, ils ont été un peu écrits pour meubler ce silence qui était de très fort à la maison.
Un très beau roman sur la transmission, que ce soit justement à travers les mots ou à travers les notes de musique comme le font les compositeurs et les interprètes. On peut dire finalement que le Vietnam pour vous est une terre de légende à laquelle vous donnez corps à chacun de vos livres. Ça passe d'ailleurs par une très belle image symbolique, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui m'a retenu, c'est l'image du grand-père d'Anna qu'elle ne connaît pas, qu'elle connaît seulement à travers une photo et à travers la voix de sa mère. Ça représente bien justement ce passé dur des ancêtres.
Oui, en fait, je pense qu'il y avait... ce qui était sûr, c'est que, par exemple, je n'avais pas envie de faire une épopée où il y aurait, façon Scarlett O'Hara et Autant d'emporte le vent, où revivrait toute ma famille au Vietnam, etc. Ce qui me tenait à cœur, c'est de donner corps à l'absence, en fait. C'est de montrer aussi l'éloignement dans le temps, l'éloignement dans la mémoire, l'éloignement aussi... Qui pose presque un filtre fictif finalement sur ce qui a été, ce qui est devenu de ce grand-père. Et l'idée dans le livre, c'est de présenter à la fois le Vietnam sous le visage d'une contrée rêvée, mais aussi d'une contrée réelle à laquelle va se heurter le personnage. Parce qu'évidemment, rêver du Vietnam, c'est aussi rêver d'une illusion, puisqu'elle ne connaît pas ce pays, comme d'ailleurs l'héroïne du premier roman de La princesse et le pêcheur. Donc il y avait les deux visages du Vietnam qui devaient se superposer ou se répondre selon les cas. Et c'est vrai que l'image du grand-père, c'était intéressant parce que elle est à la fois réelle. Donc c'est vraiment mon grand-père maternel a eu exactement l'histoire qui est décrite dans le livre, qui est une histoire d'ailleurs très romanesque, mais qui pour le coup est vraie. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est de l'inscrire dans ce roman et de lui donner un sens nouveau par rapport à l'histoire d'Anna Song, qui n'est pas mon histoire à moi, évidemment, pour le coup, et de mettre en écho ces deux trajectoires. Et du coup, ça réinterprétait une histoire vraie mais cette fois sous un autre jour, sous le jour du roman.
Alors on l'aura bien compris, finalement il y a deux mots, le lac ou le miroir, c'est un peu le ressort de votre écriture et je crois qu'il représente bien ce que vous venez de dire. J'ai juste dire que l'histoire de la maison du grand-père, je vais la résumer en deux mots, c'est que le grand-père avait construit une superbe demeure familiale et puis malheureusement cette maison allait être réquisitionnée, donc en l'espace d'une nuit, eh bien, il l'a détruit, il a préféré détruire cette maison et son rêve. Et la photo qui est très importante dans cette histoire, c'est qu'on voit justement la photo du grand-père face à cette maison. Et ça illustre très fort symboliquement ce roman, qu'on peut dire un roman sur les univers parallèles, justement par rapport au Vietnam famille, au Vietnam qu'elle va visiter ensuite, un univers parallèle entre les ombres et les lumières, entre leurs rêves et la réalité, parce que du côté ombre et lumière, eh bien, votre héroïne Anna Song, finalement, elle va connaître la lumière qu'en se retirant dans l'ombre.
Oui, en fait, elle connaît la lumière en mourant. Donc c'est un peu la particularité de ce personnage et la particularité du livre, c'est que son personnage principal meurt à la première page et que, enfin, il est composé de deux voix. Il y a des articles de journaux et puis il y a un récit à la première personne du mari de la pianiste à qui est élevé le livre d'une certaine façon. Et donc elle, paradoxalement, c'est une artiste qui s'est isolée pendant des années à cause de la maladie. Et elle a enregistré pratiquement tout ce qui est possible d'enregistrer dans le répertoire pour piano. Et c'est sa mort qui va jouer le rôle de catalyseur et d'accélérateur dans sa notoriété. Parce que son histoire est tellement romanesque, tellement glamour, et cette femme superbe, attaquée par la maladie, réussissant dans un ultime souffle à produire les chefs-d'œuvre de sa vie et les laissant derrière elle et diffuser alors qu'elle-même n'est plus, séduit en fait énormément les médias. Et les médias se mettent alors à lui élever une statue et à faire d'elle un mythe. Jusqu'au jour où il s'avère que, je ne sais pas si je dois le raconter ou pas d'ailleurs.
Non, allez, d'accord. On ne le dit pas. Jusqu'au jour où vous devrez justement me lire. Mais on peut dire aussi qu'il n'y a pas que les médias qui fabriquent le mythe. Au départ, celui qui initie le mythe, c'est cet homme finalement, sur son amour désespéré face à cette femme qui l'aime. Quoi. Finalement, il veut la protéger, lui assurer justement que les choses continuent, parce que justement, c'est également important que les choses se poursuivent, mais qu'elles continuent également.
Oui, en tout cas, l'idée, c'est que... celui qui raconte, donc c'est le mari, Paul, qui est le producteur et l'agent d'Anna Song. Et de toute façon, tout le livre est construit aussi comme un mouvement contre ce qui disparaît, contre l'éphémère, contre ce qui est condamné. Et l'idée de ce personnage, c'est de réussir à vaincre aussi bien la mort que l'impossible. Voilà. Il éprouve effectivement un amour fou pour la jeune femme, pour Anna Song, et contre toutes les circonstances et contre le destin même qui lui était normalement attribué, il va décider de lutter, et il va lutter grâce à un pouvoir particulier qui est celui de la fiction, en fait. Et c'est une fiction précisément tellement émouvante et tellement forte que tout le monde va y croire. Et c'est un peu l'histoire de tout le livre. C'est un livre sur le pouvoir de la fiction, le pouvoir de l'imaginaire, qui est parfois beaucoup plus fort, finalement, que les réalités construites en dur.
Alors qu'il passe soit par la musique, puisqu'on parle énormément de musique dans ce livre, ou parfois à travers les livres, finalement, les interprètes sont d'amples courroies de transmission, comme le sont les écrivains.
C'est ce qui est attribué effectivement à un moment à Anna Song. Elle aurait dit que les interprètes ne sont que d'humbles courroies de transmission. Alors moi personnellement, je ne partage pas cet avis et je pense que heureusement que les écrivains ne sont pas d'humbles courroies de transmission et d'humbles véhicules du réel. Bon, sinon, ben autant faire même pas du documentaire à vrai dire, parce que même dans le documentaire, en réalité, on met en forme. Voilà, on décide de cadrer telle ou telle personne, tel ou tel lieu, et on met en récit de toute façon quoi qu'il arrive. Donc l'écrivain, il n'est pas une simple courroie de transmission, même si parfois il fait semblant de l'être, mais il prend cette posture-là, mais il ne l'est jamais. On ne peut jamais être une humble courroie de transmission, sinon on n'est pas un artiste.
Il y met toutes ses émotions, comme finalement les interprètes. Alors on parle de beaucoup d'interprètes célèbres. Et savez-vous aujourd'hui, Mintraoui, que par exemple Martha Algeric, dont vous parlez dans ce livre, eh bien, c'est tout à fait exceptionnel. Elle est aux Beaux-Arts ce soir. Elle donne très peu de récital. Souvent, on peut la croiser à Lugano avec ses amis pour son festival. C'est presque impossible d'avoir des places. C'est un beau clin d'œil également du destin qu'elle soit là, à quelques mètres de la librairie Filigrane. C'est un milieu que vous connaissez bien, le milieu des compositeurs, des interprètes.
Alors, je connais bien la musique classique, mais je connais très peu le milieu des compositeurs et interprètes. En fait, bon, j'ai fait de la musique, j'ai fait du piano, j'ai fait du violon, j'étais en classe musicale autrefois. Mais bon, c'était pas une classe musicale particulièrement prestigieuse, c'était juste, voilà, il y avait des horaires aménagés, moi je faisais de la musique, et donc j'ai été intégrée à cette classe-là. Et c'est vrai que la musique a toujours joué un rôle pour moi, y compris quand j'écris. J'écris jamais sans musique, en fait. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'écris un livre, d'ailleurs, je dirais même que je compose un livre, parce que j'essaie de composer un livre un peu comme on compose une partition, avec des effets d'écho, des effets de symétrie, une image qui renvoie une autre image, comme un leitmotiv en musique. Et même là, il y a deux formes musicales qui m'ont inspirée, c'est la fugue et l'invention à trois voix de Bach, sur lesquelles j'ai un peu modelé en fait la structure même du roman. Basiquement, on a cette idée que dans l'invention à trois voix, en fait, la main gauche donne une voix, la main droite donne une voix. Donc, c'est figuré dans le livre par les articles de journaux qui composent un fil. Le récit, la première personne de Paul qui compose un autre fil. Et en s'associant, elle masque et crée à la fois une troisième voix, en fait. Et c'est un peu le principe du livre, où il y a une vérité, une deuxième vérité, et finalement, la troisième vérité est peut-être encore autre part. Et quand on arrive à la fin du livre, on s'aperçoit qu'elle était là depuis le début. Mmh. Et c'est un peu la même chose pour l'invention à trois voix, où on entend les deux voix, et en même temps, on entend une troisième voix qui est une espèce d'alliage un peu étrange des deux. Et donc je connais pas en revanche les coulisses du monde musical. Mais j'ai un ami que je remercie à la fin du roman, qui s'appelle Carole Beffa, qui lui connaît extrêmement bien ce monde-là, puisqu'il est compositeur, pianiste, interprète. Il est professeur de musicologie à l'ENS, à l'École normale supérieure en France, et il a eu une carrière de pianiste et maintenant il est un compositeur aussi en résidence à Toulouse. Donc lui, il connaît très bien ce monde-là. Et ce que je lui ai demandé, c'est de lire le roman une fois que je l'ai fini, pour vérifier que je ne disais pas de bêtises sur le milieu de la musique classique. Parce que bon, de fait, ne le fréquentant pas de très près, le fréquentant de manière uniquement, littéraire, parce que j'ai lu des choses dessus, ou voilà, sinon mon imagination a fait des siennes, je me suis dit, bon, il faut mieux que je le donne à quelqu'un qui sait vraiment de quoi il s'agit, et qui va pouvoir me dire, ah non, mais ça, c'est pas du tout crédible, tu te trompes complètement, on ne répète pas du tout comme ça.
Mais est-ce qu'on peut se tromper finalement quand on fait de la connaissance, ce que je pense être la plus belle des connaissances, c'est la connaissance des émotions, parce que finalement, il faut écouter la musique avec ses émotions, la laisser résonner en nous, laisser les images s'envoler, peu importe le côté technique derrière, non ?
Ben, de fait, en tout cas, je pense que ce serait une erreur d'avoir fait une description technique de ce milieu. Mais c'est toujours mieux quand on connaît quand même la technique et la mécanique précise qu'il y a derrière. Après, il ne s'agit pas de la montrer, parce que après tout, ça n'intéresse peut-être pas grand monde, sauf vraiment ceux qui sont spécialement, qui sont très spécialisés. Mais je pense que c'est toujours mieux, dans la mesure du possible, d'en connaître les rouages, même si on choisit de ne pas les montrer. Voilà, même si on. Donc, bon, après, je n'ai pas non plus passé 10 ans à enquêter sur le milieu de la musique classique pour être absolument certaine que. Voilà, je me suis juste contentée d'avoir une source fiable qui a pu me dire oui, tu as raison, ça va, ça en revanche tu peux peut-être employer un autre terme là, c'est peut-être mieux. Mais cela dit, par exemple dans la W d'Anna Song, moi ce qui m'a beaucoup amusée, c'est que quand je parle des interprètes ou quand je parle des compositeurs, en fait là il y a une partie des noms qui est vraie et une partie qui est fausse, et il y a une partie des anecdotes qui sont rapportées qui sont totalement vraies mais qui sont attribuées à des noms qui sont faux. Alors c'est ça aussi, je me suis dit bon, on va aller jusque là dans le brouillage de la réalité de la fiction, y compris dans le milieu de la musique classique. Par exemple, il y a un pianiste japonais à qui il a une paralysie de la main droite suite à une apoplexie en fait qu'il a eu en direct, une attaque d'apoplexie qu'il a eu direct sur scène, Et bon, il porte un nom dans le livre qui n'est pas son nom réel, mais dans la réalité, c'est vraiment arrivé. Et souvent, des anecdotes assez incroyables sont tout à fait vraies. Et on pourrait les croire fictives, mais elles sont vraies. Donc, j'ai joué un petit peu avec les deux.
Souvent, finalement, ce qui est faux est vraisemblable et ce que l'on pense être la vérité n'est sans doute pas. C'est également, bon, ne pas montrer les rouages, je dirais qu'également, c'est peut-être un roman qui dénonce un phénomène d'aujourd'hui qui est le phénomène de la starisation, qu'il s'agisse de la musique, de la peinture ou de la littérature. Il y a également quand même un peu cette petite flèche-là dans votre mélodie.
Oui, tout à fait. Et ça participe aussi de... Bon, c'est pour ça qu'il y a autant d'articles de journaux que j'ai un peu pastichés aussi, parce que c'est vrai qu'on... C'est un phénomène qui a toujours existé, mais qui est amplifié par le fait qu'aujourd'hui, il y a des médias de masse. C'est qu'une œuvre d'art, finalement, ne vaut plus tant par elle-même aujourd'hui. Il y a autre chose qui fait écran, qui est l'image de l'artiste, évidemment, l'histoire de cet artiste, et ça envahit tous les domaines, aussi bien dans le milieu de la musique classique, qui a priori pourrait être considéré comme plus préservé, mais c'est pas vrai. Et je pense, par exemple, vous voyez Hélène Grimaud, bon, qui est une pianiste talentueuse, mais elle est connue aussi comme la pianiste loup.
C'est
elle est
écho,
évidemment
un écho.
Voilà,
on parle par rapport au loup.
Elle est très belle, voilà. Et donc c'est vrai que. Et bon, et ce que je raconte est vrai aussi. Il y a effectivement un pianiste qui est devenu une célébrité à un moment parce qu'il jouait également dans une équipe de basket de haut niveau. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Et c'est assez. Donc, peut-être que c'est un très bon pianiste, mais on s'intéresse parfois à des artistes, non pas tant pour leur œuvre que pour leur glamour, l'image qu'ils diffusent. Et c'est tellement vrai en ce qui concerne les journaux. C'est vrai pour le public, mais c'est vrai énormément pour les journaux. Même pour les écrivains, on sait très bien que certains écrivains qui ont une image un peu sulfureuse, s'ils sont un peu... Bon, si jamais on a une très jolie fille ou un très beau gosse qui sort un roman, il sera plus avantageux que si... Si la fille en question est laide, est incapable de répondre à des questions de manière intelligente, etc., etc. Alors que, de fait, certains très grands écrivains sont incapables de se prêter à l'exercice qui est celui de l'interview, qui n'est pas évident non plus. Et inversement, de très mauvais écrivains, en revanche, parlent admirablement de leurs livres. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu constater parfois. Des personnes qui sont des bêtes de scène, qui sont extraordinaires à inviter dans une émission, mais bon, leur livre est mauvais. Mais on invitera quand même cette personne parce que, voilà.
Elle représente une image. En tout cas, moi, je suis ravi parce qu'on a vraiment eu un coup de cœur pour votre écriture et j'ai un coup de cœur également pour vos paroles. Donc, vous ressemblez à vos livres, vous êtes authentique et ça, c'est très rare de nos jours. Et justement, par rapport à ce que vous expliquez, par rapport à l'image de certains, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas plutôt tendance à accorder de l'importance à ce qui nous surprend plutôt qu'à ce qui nous touche?
En tout cas, je pense que peut-être que ce qui nous surprend arrive plus vite que ce qui nous touche. L'émotion, elle peut arriver aussi plus lentement et affleurer peu à peu, tandis que la surprise, c'est quelque chose qui est spontané, qui vient immédiatement. Donc peut-être en ce sens, ça va mieux avec la temporalité des médias, en tout cas aujourd'hui. Et du coup, la façon dont nous, on vit, où on vit quand même de manière très accélérée, aussi bien, tout va plus vite, quoi. Aussi bien littéralement même dans la circulation du fait de prendre des moyens de transport, d'avoir 17 émissions de télé, il y a quand même une espèce de perpétuation comme ça de il faut toujours plus, qui fait que peut-être que la surprise aujourd'hui est devenue a priori plus vendeuse que l'émotion. Mais bon, après ça dépend aussi de quelle sorte d'émotion. Vous pouvez avoir des émotions qui sont produites très 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 vite, très brutalement et très artificiellement. Après, ce qui vous touche profondément et quelque chose qui va vraiment s'imprégner et vous imprégner de manière durable, évidemment c'est plus long à se mettre en place. Mais cela dit, je ne suis pas du tout pessimiste. Moi, je considère que finalement c'est la façon que, même si un écrivain est très mauvais à l'oral, si son livre est bon, je pense qu'à terme il parvient quand même à toucher un public, ne serait-ce que grâce à des libraires comme vous.
En tout cas, merci de nous avoir touchés. Moi, je crois que vous serez tous d'accord que vous, en tout cas, vous écrivez merveilleusement bien. Vous pourrez vous en rendre compte quand vous aurez acheté le livre et vous le faire dédicacer après notre rencontre. Et en plus, vous en parlez bien. Vous en parlez tellement bien que pour terminer cette rencontre, je vais vous proposer de nous faire une lecture, si vous êtes d'accord. Alors, j'ai arbitrairement choisi le passage. Ça fait partie des privilèges de poser des questions et de vous rencontrer. À partir de considère, je vais faire... Voilà.
On considère jusqu'à où ?
Comme vous voulez.
Jusqu'à la fin.
Alors, c'est un passage d'un des articles de journaux. On considère généralement les prodiges comme des enfants qui témoignent de géniales dispositions en matière d'intuition, de sensibilité et de technique musicale. Avec Anna Song, le cliché se retourne pour donner lieu à un phénomène jamais vu jusque-là. Une pianiste à la carrière obscure qui, sur le tard et alors que sa santé est plus que défaillante, manifeste tel un phénix un regard extraordinaire de ses dons et de son énergie. Qu'elle ait ultimement réussi à enregistrer juste avant de mourir et dans un fauteuil roulant la valse de l'adieu de Chopin, achève de sculpter la statue d'une femme d'exception doublée d'une artiste à la volonté indomptable. Et chaque interview qu'on retrouve d'elle ne fait que confirmer cette idée. Toutes témoignent d'une personnalité charismatique, vive et spirituelle, pertinente et érudite dans ses commentaires sur les compositeurs et leurs œuvres, portée par une foi indestructible en son art. Le culte d'Anna Song s'étend jusqu'à gagner tous les continents. Parmi les amateurs éclairés de la belle, de la grande musique, son nom devient une sorte de mot de passe signalant qu'on se trouve entre gens de bonne compagnie qui ne se contentent pas d'une banale intégrale de Bach par Glenn Gould, disons. Rien n'est plus chic désormais que de sortir d'un coffret ou d'une étagère une pochette en noir et blanc ornée d'une photo d'Anna Song et de demander avec nonchalance « Vous connaissez ?» En cas de réponse négative, on a la joie de raconter l'incroyable histoire de la dame. En cas de réponse positive, on se répand en louanges et en commentaires. Et puis on passe aux affaires sérieuses. Tenter de compléter sa collection grâce à un échange d'informations. Car chaque passionné ne rêve que d'une chose, récupérer à tout prix la totalité des œuvres d'Anna Song, labellisée piano solo. Voilà. C'est un extrait d'un des articles qui retrace l'itinéraire de la pianiste.
Voilà, et pour en savoir plus, c'est bien La double vie d'Anna Song, paru chez Actes Sud par Mintraoui. Un très très grand merci.
Merci à vous.